Les gens normaux, eux, peuvent s'offrir des mèches de cheveux. C'est Agère qui va à nouveau lire, cette fois un extrait de la nouvelle Novembre de Flaubert. Non, Mathilde, ne t'évanouis pas de bonheur.
Qu'ai-je donc ce soir ? Tu m'as mise tout en feu, j'ai envie de boire et de danser en chantant. As-tu quelquefois voulu être un petit oiseau ? Nous volerions ensemble. Ça doit être si doux de faire l'amour dans l'air. Les vents vous poussent, les nuages vous entourent. Non, tais-toi, que je te regarde longtemps, afin que je me souvienne de toi toujours. Pourquoi cela ? Pourquoi cela ? Reprit-elle. Mais pour m'en souvenir, pour penser à toi. J'y penserai la nuit, quand je ne dors pas, le matin, quand je m'éveille. J'y penserai toute la journée, appuyée à ma fenêtre pour regarder les passants. Mais surtout le soir, quand on n'y voit plus et qu'on n'a pas encore allumé les bougies. Je me rappellerai ta figure, ton corps, ton beau corps, où la volupté respire, et ta voix. Oh, écoute, je t'en prie, mon amour, laisse-moi couper de tes cheveux. Je les mettrai dans ce bracelet-là, ils ne me quitteront jamais. Elle se leva de suite, alla chercher ses ciseaux et me coupa derrière la tête une mèche de cheveux. C'étaient de petits ciseaux pointus qui crièrent en jouant sur leurs vis. Je sens encore sur la nuque le froid de l'acier et la main de Marie. C'est une des plus belles choses des amants que les cheveux donnés et échangés. Que de belles mains, depuis qu'il y a des nuits, ont passé à travers les balcons et donné des tresses noires. Arrière, les chaînes de montres tordues en huit, les bagues où ils sont collés dessus, les médaillons où ils sont disposés en trèfle, et tous ceux qu'a pollué la main banale du coiffeur. Je les veux tout simples et noués, aux deux bouts, d'un fil, de peur d'en perdre un seul. On les a coupés soi-même à la tête chérie, dans quelque suprême moment, au plus fort d'un premier amour, la veille du départ. Une chevelure, manteau magnifique de la femme au jour primitif, quand il lui descendait jusqu'au talon et lui couvrait les bras, alors qu'elle s'en allait avec l'homme, marchant au bord des grands fleuves, et que les premières brises de la création faisaient tressaillir à la fois la cime des palmiers, la crinière des lions, la chevelure des femmes. J'aime les cheveux. Que de fois, dans des cimetières qu'on remuait ou dans les vieilles églises qu'on abattait, j'en ai contemplé qui apparaissaient dans la terre remuée, entre des ossements jaunes et des morceaux de bois pourris. Souvent, le soleil jetait dessus un pâle rayon et les faisait briller comme un filon d'or. J'aimais à songer au jour où, réunis ensemble sur un cuir blanc et graissé de parfums liquides, quelques mains, sèches maintenant, passaient dessus et les étendaient sur l'oreiller. Quelques bouches sans gencives maintenant les baisaient au milieu et en mordaient le bout avec des sanglots heureux. Je me laissais couper les miens avec une vanité niaise. J'eus la honte de n'en pas demander à mon tour, et à cette heure que je n'ai rien, pas un gant, pas une ceinture, pas même trois corolles de roses desséchées et gardées dans un livre, rien que le souvenir de l'amour d'une fille publique, je les regrette.
Alors vous avez peut-être trouvé un peu étrange ce narrateur éperdu devant sa mèche de cheveux. Encore pire, voilà un personnage de Maupassant, dans sa nouvelle « La chevelure, originalité quand tu nous tiens », qui tombe amoureux d'une chevelure tout entière qu'il trouve dans un meuble ancien. Pour votre culture personnelle, le fétichisme des cheveux porte un nom. Il s'agit de la trichophilie. Mon correcteur orthographique ne connaissait même pas le mot, ça ne s'invente pas. Vraiment, pendant 8 jours, j'adorais ce meuble. Or, un soir, je m'aperçus, en tâtant l'épaisseur d'un panneau, qu'il devait y avoir là une cachette. Mon cœur se mit à battre et je passai la nuit à chercher le secret sans le pouvoir découvrir. J'y parvins le lendemain, en enfonçant une lame dans une fente de la boiserie. Une planche glissa et j'aperçus, étalée sur un fond de velours noir, une merveilleuse chevelure de femme. Oui, une chevelure. Une énorme natte de cheveux blonds, presque roux, qui avait dû être coupée contre la peau et liée par une corde d'or. Je demeurais stupéfait, tremblant, troublé. Un parfum presque insensible, si vieux qu'il semblait l'âme d'une odeur, s'envolait de ce tiroir mystérieux et de cette surprenante relique. Je la pris, doucement, presque religieusement, et je la tirai de sa cachette. Aussitôt elle se déroula, répandant son flot doré qui tomba jusqu'à terre, épais et léger, souple et brillant comme la queue en feu d'une comète. Une émotion étrange me saisit. Qu'est-ce que cela ? Quand, comment, pourquoi ces cheveux avaient-ils été enfermés dans ce meuble ? Quelle aventure, quel drame cachait ce souvenir ? Qui les avait coupés ? Un amant, un jour d'adieu ? Un mari, un jour de vengeance ? Ou bien celle qui les avait portés sur son front un jour de désespoir ? Était-ce, à l'heure d'entrer au cloître, qu'on avait jeté là cette fortune d'amour, comme un gage laissé au monde des vivants ? Était-ce, à l'heure de la clouer dans la tombe, la jeune et belle morte, que celui qui l'adorait avait gardé la parure de sa tête, la seule chose qu'il put conserver d'elle, la seule partie vivante de sa chair qui ne dut point pourrir, la seule qu'il pouvait aimer encore et caresser, et baiser dans ses rages de douleur? N'était-ce point étrange que cette chevelure fût demeurée ainsi, alors qu'il ne restait plus une parcelle du corps dont elle était née? Elle me coulait sur les doigts, me chatouillait la peau d'une singulière caresse, d'une caresse de morte. Je me sentais attendri comme si j'allais pleurer. Je la gardais longtemps, longtemps en mes mains, puis il me sembla qu'elle m'agitait, comme si quelque chose de l'âme fût resté caché dedans. Et je la remis sur le velours terni par le temps, et je repoussai le tiroir et je refermai le meuble, et je m'en allais par les rues pour rêver. Une chanson étrange, après une nouvelle étrange, vous venez d'entendre un extrait de Madame Pompidou, du groupe Cheveux. Oui, oui, il y a une raison pour laquelle j'ai mis cet extrait, et pas seulement parce que je l'ai dans la tête depuis 2 jours. On va reprendre un peu notre sérieux et revenir vers nos chers coiffeurs. Bien loin de l'admiration béate de notre coiffeur pour dame de tout à l'heure, voici un extrait des Misérables. Sortez vos mouchoirs et vos ciseaux.
Fantine gagnait trop peu. Ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait dans le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya aux Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. La pauvre Alouette continua de frissonner. Fantine pensa. « Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux. » Elle mettait de petits bonnets ronds qui cachaient sa tête tondue et avec lesquels elle était encore jolie. Un travail ténébreux se faisait dans le cœur de Fantine. Quand elle vit qu'elle ne pouvait plus se coiffer, elle commença à tout prendre en haine autour d'elle.
Donc merci Mathilde pour ce texte qui nous a rendu sérieux et qui nous a redonné la bonne humeur et la joie de vivre. Voilà, merci
de
beaucoup.
Rien.
C'est le moment de la discussion. Et alors, une fois n'est pas coutume, j'ai préparé quelque chose pour commencer la discussion, puisqu'on a mis de côté Samson et Dalila, et du coup, ce mythe, finalement, des cheveux de Samson qui lui donnent sa force, j'ai trouvé que ça avait pas mal d'écho dans les textes qu'on a trouvés. Enfin, à chaque fois, les cheveux, c'est une force, que ça soit juste une force au niveau de la beauté de la personne qui est contemplée, ou alors vraiment, tous les cheveux qu'on a vu en tant qu'objet, une chevelure, une mèche de cheveux ou même les cheveux de Fantine, qui avait vraiment une force, qui jouait le rôle de personnage ou qui avait une valeur monétaire ou sentimentale très forte. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que je raconte des bêtises?
Alors, à ce propos, justement, en relisant ce passage des Misérables, je me suis dit qu'il y avait peut-être un parallèle à faire entre le fait que Fantine vend ses cheveux et le fait qu'elle commence un petit peu plus tard dans le roman à se prostituer. Et j'ai l'impression, du coup, qu'on peut faire un peu ce parallèle parce qu'elle vend ses cheveux et elle vend finalement sa vertu et comme une partie d'elle, quelque chose qui... Oui, voilà, qui... Je suis sûre que Hugo avait beau être un peu féministe, mais il était un peu, vous voyez, dans cet imaginaire de la femme vertueuse. Et donc, le cheveu vraiment incarne sa féminité et ce qui fait d'elle une femme et une femme vertueuse. Enfin, bon, j'avais cette impression-là qu'il y avait un parallèle à faire.
Mais je pense que ça peut aussi être une preuve, enfin, une manifestation de force de couper ses cheveux. Couper ses cheveux, ça peut être ça peut être un acte qui fait qu'on refuse d'être d'être réduit à ses cheveux, parce que c'est un atout.
Bah moi, j'ai l'impression que c'est le début de sa chute quand elle les coupe dans le
rond. Oui,
mais après,
oui,
c'est vrai que.
Mais là, je parlais dans l'absolu.
Oui, bah, par exemple, je dis. Vous voyez dans Mulan le moment où elle se coupe les cheveux. C'est là qu'elle devient une guerrière, vous pensez?
Oui, parce que les cheveux longs, c'est aussi.
En plus, elle le fait à l'épée. Alors.
Oui, ah, ça bon. Fait très princesse, ça fait très. Voilà, et les cheveux courts tout d'un coup, femme indépendante, forte, etc. Enfin, on a un autre imaginaire après qui prend la place.
Donc, oui. Oui, donc oui, il y a ce côté-là, vraiment, l'érotisme de la chevelure et le pouvoir de séduction qu'il peut avoir sur une femme. Parce que finalement, on n'a eu que des chevelures de femmes dans
c'est
les
ce
textes.
C'est ce que je me disais.
Mais du coup, Samson, c'est pas vraiment ça, puisque c'est juste une force brutale, masculine, guerrière. Et du coup, c'est l'exact opposé de Mulan, parce que...
Quand on lui coupe,
ouais. Il perd sa force guerrière, alors que Mulan, c'est le contraire, elle acquiert son statut de guerrière. Alors là, je l'avoue, hein, je me fais transpercer par trois pères dieux féminins. J'ai pas vu Mulan.
J'avais une chose à faire avant cette émission.
Voilà, j'avais une chose à préparer, c'était voir Mulan, et je ne l'ai pas fait, mais je vais le faire un jour.
Peut-être.
Et donc oui, c'est l'exact contraire, Mulan sans son. Mais du coup, finalement, cette vision des cheveux comme force vraiment guerrière, est-ce qu'on la retrouve finalement dans
Game of Thrones? Bah oui, mais en plus, c'est littéraire. J'oublie que c'est pas qu'une série.
Oui, George Martin.
Oui, bien sûr. En fait, dans le peuple des Dothraki, qui sont des sortes de guerriers, cavaliers...
Oui, sur des chevaux.
Voilà. Quand ils sont... les hommes ne se coupent les cheveux que lorsqu'ils sont battus lors d'un combat, lors d'un duel. Et donc, plus la tresse d'un homme est longue, plus il est fort, en fait.
Mais à part ça, ce n'est pas la taille qui compte.
Voilà, exactement.
Mais encore une fois, ici, on voit bien que les cheveux, c'est encore marqué... c'est très féminin. C'est encore un attribut qu'on typifie comme étant féminin, faiblesse, qu'on remarque... Voilà.
On remarque rarement les cheveux d'un homme.
En tout cas, en littérature, il y a, à mon avis, très peu de descriptions, à part Samson, mais encore une fois, il perd ses cheveux à cause d'une femme. Voilà.
Et son perfide, tout le monde le sait.
Bon, et bien, puisque Clément est trop timide pour passer au micro et étendre le sujet vers la pilosité, les barbes, tout ça, merci quand même pour ta participation, Clément. C'est déjà la fin de Les yeux ont des oreilles, que nous avons renommé aujourd'hui, et pour toute la semaine, Les yeux ont des cheveux. Je vous laisse imaginer la chose. On espère que vous avez pris du plaisir à écouter nos voix. On vous imagine bien en train de brosser vos cheveux en nous écoutant. Prenez-en bien soin, qu'ils soient pour vous une source de force, de beauté, ou même un élément terriblement sensuel et attirant, bande de tricophiles. Pour terminer, en bonus, Céline va vous lire un extrait de Belle du Seigneur de Albert Cohen, dans lequel elle vous donnera quelques conseils de séduction. En attendant de les mettre en pratique, vous pouvez aller fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des cheveux. Copyright presque Camille.
Donc, au début, compliment massif, et ne crains pas d'y aller à fond, elles avalent tout. Le recours à la vanité est un bon hameçon. Vaniteuse ? Oui, mais surtout si peu sûre d'elles. Elles ont tellement besoin d'être rassurées. Parce que le matin, dans la glace, elles se découvrent un tas d'imperfections. Les cheveux ternes et trop secs, les pellicules ennemies, les pores trop ouverts, les orteils pas beaux. Surtout le dernier, le bossu, le petit infirme avec un ongle de rien du tout. Alors tu te rends compte du service que tu lui rends en faisant d'elle une déesse, jamais sûre d'elle-même. C'est pourquoi leur besoin maladif de robes nouvelles, qui le feront neuf, est de nouveau désirable. Oh, les pauvres ongles trop longs et vernis, leurs crétins sourcils épilés, leur obéissance abrutie aux lois de la mode. Dites-leur que cette année, la mode, c'est une jupe avec un gros trou au bas du dos, et elles courront se mettre des jupes trouées révélant leurs orbes nus. Complimente donc tout, même l'absurde bibi catastrophée qu'elle se colle, condamnation éternelle au-dessus de sa tête. Autant qu'une nouvelle robe, les compliments lui sont oxygène, elle respire largement et refleurit. Bref, sois le donneur de foi, et elle ne pourra plus se passer de toi, même si tu n'as pas réussi à la séduire complètement le premier soir. Et elle pensera à toi tous les matins au réveil, se redira tes louanges tout en bouclant sa toison, ce qui semble exciter son pouvoir de concentration. Par parenthèse, ne crains pas d'être scabreux de temps à autre. Cela abaisse les barrières. Une fois qu'elle sait que tu sais qu'elle a une toison secrète, que cette toison tu l'imagines, blonde ou châtaine ou brune, elle a moins de défense.